Tchaïkovski, donc, bonjour, vous êtes sur Radio B, les bonnes ondes, 90.0, Paul Turchet et Bruno Point, et nous présentons donc cette deuxième émission sur Piotr Ilitch Tchaïkovski. J'insiste sur Piotr Ilitch car aujourd'hui nous allons consacrer cette émission, après une première consacrée aux symphonies et à la musique de chambre, et aux concertos, aux opéras et aux ballets. Aux opéras, donc, nous allons écouter du russe. Donc, Piotr Ilitch va s'être traduit dans des paroles russes. Nous allons écouter de la musique et des airs chantés en russe. Nous sommes au plein cœur du 19e siècle. Tchaïkovski est né en 1840. Il décédera en 1893, donc on voit qu'il a couvert toute la deuxième partie du 19e siècle. Nous sommes en Russie, deux villes sont très importantes et comptent beaucoup dans l'histoire culturelle et donc musicale de la Russie, à savoir Saint-Pétersbourg et Moscou. Deux villes et deux frères, les frères Rubinstein, Anton et Nikolai, qui sont les grands patrons de la musique en Russie. Tout ça est très important parce que ces deux frères se sont formés beaucoup en Allemagne. Ils ont été les amis de Mendelssohn. Ils ont été aussi en France les amis de Saint-Saëns. Ils sont donc européens. On va leur reprocher car, bien sûr, une singularité va se définir avec un groupe dit le groupe des cinq. Nous avons là cinq compositeurs, Alexandre Borodine, Mili Balakirev, Nikolai Rimsky-Korsakov, le géant Modeste Moussorgski et César Cui, dont nous parlerons, critique musicale. Ces cinq compositeurs affirment, eux, leur identité russe. On a donc là, un classique des personnes humaines, hein. À la fois la Russie est à l'extrême est de l'Europe, mais la culture, la langue, tout les entraîne vers l'Europe et notamment vers la France, et des nouveaux artistes affirment leur singularité et entendent exprimer la Russie. Les deux frères, eux, sont imprégnés plutôt d'Allemagne et de France, ainsi que je l'ai dit, bien qu'ils soient russes, et ils vont faire leur carrière, tous les deux, dans les conservatoires de Saint-Pétersbourg et de Moscou, les deux centres de la vie musicale russe. On va trouver dans ces deux villes aussi deux grands théâtres d'opéra et de ballet, que sont pour Saint-Pétersbourg le théâtre Mariinsky, qui a été construit en 1860, et puis sur quant à Moscou, le théâtre dit du Bolchoï. En fait, Bolchoï, ça veut dire grand. Donc le grand théâtre de Moscou. Et bien sûr, Tchaïkovski va créer, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, opéra et ballet, va voir ses œuvres créées dans ces deux théâtres, qui sont donc très importants et qui continuent aujourd'hui d'être des phares de la vie musicale et de la vie des ballets dans le monde. César Cui va être très critique envers Tchaïkovski, il ne sera pas le seul d'ailleurs, Rubinstein aussi critiquera les œuvres et la musique de Tchaïkovski, notamment son concerto, nous l'avons vu lors de la précédente émission. Toutefois, leur amitié va perdurer et Rubinstein révisera sa position et jouera le concerto. Mais César Cui, nous sommes dans le critique musical, je dirais presque dogmatique. Donc il refuse les Rubinstein, il refuse Tchaïkovski, il refuse l'influence, l'environnement européen, il veut affirmer la Russie. Mais nous sommes au 21e siècle, j'allais dire au 20e, mais le 20e est tourné. Nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, l'histoire a fait le tri et Tchaïkovski est resté et est pour nous un compositeur à la fois européen et très russe. Il est profondément russe, nous le verrons dans les sujets traités aujourd'hui. Commençons par une musique. La dernière fois, je parlais de Tchaïkovski en disant « il est trop ». Eh bien là, nous allons tout de suite rentrer dans le trop, une musique résolument sentimentale. C'est une valse sentimentale jouée et adaptée pour un orchestre très sentimental.
Cette introduction musicale constitue également une excellente transition qui nous amène à la musique de ballet composée par Tchaïkovski, qui compose trois grands ballets, Le Lac des Cygnes, Cendrillon et Casse-Noisette. Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement au Lac des Cygnes et à Casse-Noisette. Le Lac des Cygnes est le premier ballet donc créé par un compositeur symphonique, car habituellement, la musique de ballet a été composée par des compositeurs entre guillemets spécialisés, comme Léo Delibes, Adolphe Adam, Ricardo Drigo, dont Tchaïkovski d'ailleurs avait étudié et apprécié les compositions. Rimsky-Korsakov, dont Bruno nous a parlé, va tenter de faire renoncer Tchaïkovski à ce projet en estimant qu'il n'était pas à la hauteur de son talent. Et par une phrase péremptoire, Tchaïkovski répond excellemment « Il n'y a pas de genre inférieur en musique, il n'y a que de petits musiciens ». Et Tchaïkovski ne composera pas de la petite musique. Il fera, on peut le dire, du vrai Tchaïkovski. Il compose une musique véritablement symphonique, riche, luxuriante, avec des danses qui sont des tourbillons de musique. On trouve dans le Lac des Cygnes danses hongroises, espagnoles, napolitaines, une mazurka, des marches, des pas de deux, un pas de six, des valses. À telle enseigne que les maîtres de ballet vont souvent être dépassés par la musique pour s'adapter à une telle ampleur musicale. Ce qui expliquera d'ailleurs que l'œuvre sera très souvent triturée, recomposée, réaménagée, aussi bien musicalement que dans son scénario qui connaîtra d'ailleurs différentes fins. Toujours est-il que cette partition initiée et commencée par Tchaïkovski en 1871, pendant ses vacances, pour composer un petit ballet destiné aux enfants de sa sœur, va être retravaillé par le compositeur pendant plusieurs années, avant d'être créé au Théâtre impérial du Bolchoï en 1877. Cette œuvre, qui comprend trois actes et pas moins de 29 tableaux ou scènes, connaîtra un succès universel. Nous allons écouter « Danse sur le lac ». L'argument de l'œuvre Le Lac des Cygnes réside dans un grand bal organisé par la mère du prince Siegfried pour son anniversaire. Et au cours de ce bal, il devra choisir une future épouse. Vexé de ne pouvoir la choisir par amour, Siegfried se rend dans la forêt pendant la nuit, épaule son arbalète au passage d'une nuée de cygnes, et c'est alors qu'apparaît une magnifique femme vêtue de plumes de cygne blanche, la princesse Odette, victime d'un mauvais sort qui la transforme en cygne blanc le jour et en femme la nuit. Le prince tombe bien sûr follement amoureux d'Odette et le soir du bal, parmi les prétendantes, apparaît un cygne noir transformé par le sorcier Rothbard en sosie de la princesse Odette. Le prince danse avec le cygne noir et veut l'épouser et heureusement, au moment de célébrer les noces, la véritable princesse Odette apparaît. Au-delà de cet argument ou de ce scénario, cette œuvre sera considérée comme la malédiction vécue par Tchaïkovski, qui, après l'échec d'un mariage de pure convenance, se sentira poursuivi par le sentiment d'une implacable fatalité qui est son homosexualité. Comme Siegfried, les amours féminines lui sont interdites. Le prince ne peut pas avoir de relations charnelles avec le cygne blanc, symbole de pureté qui serait contraire aux lois humaines. Et Nourieff fera une adaptation d'ailleurs très, très freudienne de cette œuvre. Nous allons écouter maintenant la valse des cygnes. Thank you.
pas de petite musique donc chez Tchaïkovski. On l'a entendu, ce ballet est écrit comme il écrit des symphonies. Il en sera de même pour l'opéra. Il va écrire 11 opéras. 4 vraiment se dégagent de toutes ses œuvres. Il s'agit d'Eugène Onéguine, La Dame de Pique, Mazeppa et Yolanta. 3 ont fait l'objet de livrets écrits par le frère de Tchaïkovski, Modeste Tchaïkovski. Et peut-être plus important, 3 sont issus de la littérature de Pouchkine. Pouchkine, grand romancier, poète, dramaturge russe, né en 1799 et mort en 1837, donc juste avant Tchaïkovski, avant la naissance de Tchaïkovski. Mais Pouchkine est extrêmement important car c'est, on peut presque dire, le créateur de la littérature russe. C'est lui qui a imposé le russe dans l'écriture. Auparavant, les écrivains hésitaient à écrire en russe, beaucoup de choses étaient écrites en français. Toujours est-il que Pouchkine, on revient un peu au préambule de cette émission, a fait la jonction entre l'Europe, la France. Il était très cultivé, notamment en littérature germanique et en littérature française. Il était européen, mais il était russe. Et il a écrit des romans et des poésies en russe. Il sera suivi par de très grands écrivains, tels Dostoïevski, tels Tolstoï, qui reconnaîtront son génie et son importance dans l'histoire de la littérature russe. Et donc, Tchaïkovski va choisir Eugène Onéguine, La Dame de Pique et Mazeppa comme sujets qui sont des textes de Pouchkine. Nous commencerons aujourd'hui par Eugène Onéguine. Eugène Onéguine, c'est donc un très grand roman de Pouchkine. Et nous verrons que c'est une histoire compliquée, une histoire humaine avec des drames sentimentaux, avec des personnages tout à fait russes d'ailleurs. Nous avons Onéguine, qui est un oisif blasé, issu d'une famille, d'abord riche, puis ruiné, puis fait un héritage d'un oncle. Il vit à la campagne, environné de paysans, car il est le propriétaire d'un immense domaine. Mais c'est un oisif un peu libertin, qui est un peu déçu par la vie, mais qui va mener une existence trouble au niveau amoureux qui va nous entraîner dans ce drame qu'est Eugène Onéguine. Commençons par un autre personnage important, Lenski qui est un homme, je dirais, plus droit qu'Onéguine, qui lui est amoureux d'Olga. Il y a dans Eugène Onéguine 4 personnages importants, Eugène Onéguine, son ami Lenski et 2 sœurs, Olga et Tatiana. Lenski est donc amoureux de Olga et l'exprime dans l'air que nous allons écouter.
Oh! чтение бездну пищи для ума и сердца, но не всегда сидеть нам можно с книгой.
Мечтаю иногда, бродя по саду.
О чем же вы мечтаете?
Lenski et Olga vont donc se marier. La deuxième sœur, Tatiana, elle, rencontrant Eugène Onéguine, va être profondément amoureuse de lui et va lui déclarer son amour dans une lettre. Nous écouterons cet air. Et malheureusement, Onéguine est un être oisif, léger et, je dirais, inconstant. Il va négliger, il va les conduire en lui disant qu'il n'est pas fait pour la rendre heureuse. Mais par la suite, souvent les opéras sont des drames, par la suite, lors d'un bal, par jeu, il va vouloir séduire Olga parce qu'il s'ennuie. À l'époque, en Russie, peut-être même ailleurs, en France aussi, mais à l'époque, lorsque une telle chose se passait, ça finissait par un duel. Et donc, il y a eu un duel entre Lenski et Onegin. Et Onegin tue son ami d'une manière parfaitement futile, puisque en fait, il voulait séduire sa femme, qui d'ailleurs avait répondu à son sourire. Mais ça n'empêchera pas Tatiana d'être toujours amoureuse de lui. Et néanmoins, elle va se marier avec un vieux prince. Et elle, comme elle est droite, elle va vraiment être fidèle à son mari. Et Onegin, les inconstances de l'amour, on retrouve là-dedans du Stendhal, du Flaubert. À partir du moment où elle lui échappe, il devient amoureux, bien évidemment. Et tout ça, c'est traduit par Pushkin. Donc, j'ai l'air de le dire de manière légère, mais non, ça traduit les sentiments humains. Et Onegin va revoir Tatiana, va lui déclarer sa flamme alors qu'il l'avait négligée. Tatiana va lui confirmer qu'elle l'aime toujours, mais qu'elle sera fidèle. Et donc Onegin va se consumer d'amour sans succès. Écoutons la lettre de Tatiana à Onegin où elle lui déclare son amour.
Thank you.
Revenons au ballet avec le Casse-Noisette. Cette composition en deux actes, trois tableaux, 15 scènes, s'inspire de l'adaptation de la version de l'écrivain Alexandre Dumas du conte allemand Casse-Noisette et le roi des souris d'Ernest Hoffmann, publié en 1816. Bien que le scénario n'ait pas véritablement enthousiasmé Tchaïkovski, parce que bon, il est assez pauvre, enfin c'est un scénario. Bon, il accepte néanmoins de composer cette œuvre, justement, au regard de la grande estime qu'il porte à Hoffmann, qui entre autres inspirera d'ailleurs Robert Schumann. Comme dans le lac des cygnes, cette œuvre est néanmoins riche de symboles. Il s'agit d'une véritable fable sur le passage de l'enfance à l'adolescence, fondée sur le thème, on peut dire immortel, de l'amour et des forces du mal. Une petite fille, Clara, reçoit à Noël un casse-noisette en bois qui a la forme d'un petit bonhomme. La nuit, les souris attaquent les jouets que Clara défend et le casse-noisette se transforme en prince charmant, entraînant Clara dans son royaume, celui des sucreries. La fée dragée organise de grandes fêtes et de nombreux numéros de danse se succèdent, exécuté par les sujets de ce royaume magique et imaginaire. Tchaïkovski va ainsi composer des marches, des valses, encore des valses, toujours des valses avec une maîtrise inouïe. Valse des flocons de neige, valse des fleurs, valse des danses arabes pour le café, danse espagnole pour le chocolat, chinoise pour le thé, danse russe, danse des mirlitons, tarentelle, danse de la fée dragée, etc. Et comme pour le lac des cygnes, Tchaïkovski crée d'intenses émotions et compose une musique romantique, puissante, luxuriante et laisse libre cours à sa très riche inspiration. La musique est composée au cours de l'année 1891 et elle est présentée pour la première fois au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg le 18 décembre 1892. Écoutons maintenant la valse des fleurs.
Thank you.
Cette œuvre, le Casse-Noisette, largement d'ailleurs galvaudée par la publicité, ce qui d'ailleurs l'a rendu célèbre, mais le remède n'est-il pas pire que le mal, contient de très riches harmoniques. Et elle comprend également de nombreuses références stylistiques à la musique de la fin du XVIIIe siècle, qui témoignent notamment de la profonde admiration qu'avait Tchaïkovski pour Mozart. Inspiration mozartienne qu'on retrouve dans l'ouverture miniature, la marche, la danse du grand-père. Cette palette symphonique, harmonique, n'a jamais été égalée dans un ballet. Et comme pour le Lac des Cygnes et Cendrillon, Tchaïkovski déploie une science et une inspiration pour sublimer l'argument du ballet, qui reste, disons-le, extrêmement simple, mais qui inspire Tchaïkovski pour déployer des atmosphères oniriques qui témoignent de sa sensibilité exacerbée. Sensibilité extrême qui faisait, pensons à la première émission, sa nourrice, Fanny, l'appelait l'enfant de verre, tellement il était fragile psychologiquement, émotif et sensible. Cette musique qui traverse les âges et les continents permet une nouvelle fois de faire justice des critiques cruelles qui lui furent adressées et qui lui reprochaient d'être romantique, trop romantique et toujours trop romantique, et d'être en quelque sorte un homme du passé, comme nous l'avons vu également dans la première émission. Ce qui n'a pas empêché Tchaïkovski d'être profondément novateur, inscrit dans son temps, pour s'inspirer de chansons populaires françaises, telles que « Bon voyage, monsieur Dumollet » et la chanson « Cadet Roussel » qu'on trouve dans l'acte 2, troisième tableau. Ce qui ne l'a pas empêché non plus d'introduire dans une profusion d'inventions mélodiques et rythmiques, et d'innover en employant, par exemple, ce sera l'extrait que nous allons écouter, un instrument récemment créé à l'époque de sa composition, qui s'appelle le Celesta, un petit instrument, un piano miniature pour les enfants, un instrument à percussion que Tchaïkovski avait découvert à Paris, et dont le son est produit par la percussion du marteau. On appuie sur une touche et le marteau frappe non pas des cordes comme dans un piano classique, mais une plaque métallique qui annoncera également le xylophone. Cette musique, ce passage que nous allons écouter, qui s'appelle la danse de la fée dragée, est évidemment connu et a traversé le temps, a traversé l'histoire. C'est donc la danse de la fée dragée.
Revenons à l'opéra et au drame avec la Dame de Pique, nouveau texte issu d'un roman de Pouchkine. On peut faire un parallèle d'ailleurs dans les fondamentaux de la Dame de Pique et d'Eugène Onéguine. On a le même stress, la même angoisse face à la vie, face à l'insoutenable légèreté de l'être, pour reprendre le titre d'un grand roman de Kundera, et qui trouve des dérivatifs. Le dérivatif dans la Dame de Pique, c'est la passion du jeu. Le personnage principal, Hermann est un jeune homme qui s'ennuie aussi, qui craint la vie et qui va se passionner pour le jeu. Mais il n'a pas de moyens, donc il hésite à jouer. Et il va rencontrer Lisa, une jeune femme qui, elle, est fiancée au prince Yelevski, mais il va tomber éperdument amoureux de Lisa. Mais surtout, il y aura une grande ambiguïté. Est-il amoureux d'elle ou est-ce que parce qu'elle est la petite fille de la Dame de Pique, une comtesse qui détenait le secret des trois cartes gagnantes, le 3, le 7 et l'As. Mais il ne les connaissait pas et il va entreprendre, en séduisant Lisa, de rencontrer la comtesse. Il rencontre la comtesse, mais que se passe-t-il ? Eh bien, il obtient d'elle les trois cartes magiques, mais la comtesse réalise que, en lui donnant, elle les avait reçues du comte de Saint-Germain à Paris et qu'il avait prévenu que le troisième homme à qui elle le dirait finirait par sa propre mort. Et ainsi, elle l'avait dit à son mari, à un de ses amants, et elle le dit maintenant à Hermann. Et elle va mourir. Écoutons un air d'Hermann qui parle de son amour pour Lisa.
Thank you.
Herrmann est devenu fou. D'ailleurs, le scénario, la trame de l'opéra, ce sont des réminiscences d'Herrmann qui est à l'hôpital et qui se souvient. Donc, toutes les scènes, ce sont des réminiscences des souvenirs. Il se souvient donc de la mort de la comtesse et il se souvient de son amour pour Lisa. Lisa qui, elle, va l'aimer malgré son insoutenable légèreté de l'être. Et elle va continuer de le rencontrer et de l'assister à l'hôpital. Mais dans un dernier élan de folie, je serais tenté de dire, Herrmann rêve qu'il joue encore et qu'il déploie les trois cartes magiques. Le 3, il gagne. Le 7, il gagne. Mais lorsqu'il joue l'as, en fait, c'est la dame de pique qui se retourne, et la dame de pique, eh bien, c'est le symbole de la comtesse. Là, il devient complètement fou et se suicide. Donc nous voyons que nous avons là des symboles forts, hein, l'angoisse face à la vie, et puis quelque part, lié à l'existence amoureuse de Tchaïkovski, les femmes sont inaccessibles. Il les vénère, mais elles sont inaccessibles. Écoutons l'air de Lisa pour conclure, dans La Dame de Pique et l'acte 3.
Thank you.
Nous avons écouté aujourd'hui la merveilleuse valse sentimentale, extrait d'une suite pour piano, mais là jouée par Joseph Sakonoff, qui tient la baguette du London Festival Orchestra, puis du Lac des Cygnes, la danse sur le lac par le London Symphony Orchestra et le Valse des Cygnes, dirigé par Herbert von Karajan à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Ensuite, Eugène Onegin avec l'air de Lenski chanté par Sergei Lemetchev, puis l'air de La Lettre chanté par la soprane Azmin Grigorian et l'orchestre de la Suisse romande. Ensuite, du Casse-Noisette, la valse des fleurs et la danse de la fée dragée par le London Symphony Orchestra dirigé par Antal Doraty. Un petit mot sur l'air d'Hermann de la Dame de Pique chanté par Jegam Grigorian et l'orchestre du Kirov dirigé par Valery Gergiev. Le Kirov, c'est le théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et Valery Gergiev le relance, l'a relancé toute sa vie et c'est un personnage musical considérable au niveau mondial. Puis nous avons conclu avec Liz Davidson, soprane dans l'aria de Lisa de la Dame de Pique. Notre prochaine émission, fidèle au changement que nous aimons opérer, sera consacrée à deux très grands pianistes virtuoses du jazz, à savoir Art Tatum et Oscar Peterson. D'ici là, bonne journée, bonne fête de fin d'année et à bientôt. Écoutez bien Radio B jusqu'à la fin de l'année, avant l'année prochaine.
Au revoir.